catholique, un autre à l'église épiscopalienne, mais on n'y trouve ni temple ni synagogue. Les gens sont chrétiens ou prétendent l'être. Il n'est pas très bien vu de n'appartenir à aucune religion. La place de chacun dans la société y est souvent déterminée par sa confession. Ces 16 000 habitants font d'Ada une agglomération importante dans cette région rurale de l'Oklahoma. La ville a attiré des usines et des magasins discount. On vient y travailler et s'approvisionner de plusieurs comtés à la ronde. Elle est située à 130 km au sud-est d'Oklahoma City et à 3 heures de route de Dallas. Tout le monde y a un proche qui vit au Texas. Les ranchs du coin élèvent quelques-uns des meilleurs chevaux du pays, notamment un demi-sang rapide et puissant qui est la grande fierté locale. Quand l'équipe de football scolaire, les Cougars, remporte le championnat de l'État, la ville s'en gargarise pendant des années. Ada est un endroit accueillant, où on n'hésite pas à parler à un inconnu, où on est toujours prêt à aider celui qui est dans le besoin. Le jour, les enfants jouent sur les pelouses ombragées et les portes restent ouvertes. La nuit, les jeunes en virée ne se font pas remarquer. Si deux meurtres n'avaient placé la ville sous le feu des projecteurs au début des années 1980, personne n'aurait entendu parler d'Ada, et ça n'aurait pas déplu aux braves gens du comté de Pontotoc. Comme pour respecter quelque arrêté municipal tacite, la plupart des bars et des boîtes de nuit d'Ada étaient implantés à la périphérie de la ville, exilés dans les faubourgs afin de protéger les honnêtes gens de la racaille et de ses excès. L'un de ces lieux nocturnes, le Coach Light, était une énorme construction métallique. L'éclairage y était mauvais, la bière de piètre qualité. Il y avait des jukebox, un orchestre le week-end, une piste de danse et un gigantesque parking gravillonné occupé par une majorité de pick-up couverts de poussière. La clientèle était composée d'ouvriers qui passaient boire un verre avant de rentrer chez eux, de campagnards en goguette, de couche-tard et de fêtards venus danser au son d'un orchestre. Vince Gill et Randy Travis y étaient produits au début de leur carrière. Populaire, animé, l'établissement avait de nombreux employés à temps partiel, barmen, serveuses, videurs. Une des serveuses s'appelait Debbie Carter. Âgée de 21 ans, elle avait arrêté ses études à la fin du lycée et profitait de sa liberté de célibataire. Elle avait deux autres petits boulots à Ada et faisait également du babysitting. Debbie possédait une voiture et vivait seule dans un trois pièces, au-dessus d'un garage dans la 8e rue, près de l'université. C'était une jolie brune, mince et musclée, qui plaisait aux garçons, mais tenait à son indépendance. Sa mère, Peggy Stilwell, trouvait que Debbie passait trop de temps dans les boîtes de nuit, au Coach Light en particulier. Elle avait élevé sa fille dans la religion, pas pour qu'elle mène cette vie. Mais après le lycée, Debbie avait commencé à sortir faire la fête. Peggy lui en faisait reproche, et elle se disputait. Décidée à conquérir son indépendance, Debbie avait fini par quitter le foyer familial. Elle avait son propre logement, mais restait proche de sa mère. Le soir du 7 décembre 1982, Debbie faisait le service, l'œil fixé sur la pendule. Comme il n'y avait pas grand monde au Coach Light, elle demanda à son patron la permission de quitter son service pour prendre un verre avec des copains. Elle se retrouva bientôt à la table de Gina Vietta, une amie de longue date. Glenn Gore, un copain de lycée, vint inviter Debbie à danser. Elle accepta, mais au bout d'une ou deux minutes, l'air furieux, elle le planta sur la piste. Plus tard, sans donner d'explication, elle confia à Gina qu'elle se sentirait plus tranquille si quelqu'un venait dormir chez elle. Le Coach Light ferma de bonne heure vers minuit et demi. Gina Vietta invita son groupe d'amis à passer prendre un dernier verre chez elle. La plupart acceptèrent, pas Debbie. Elle avait faim, elle était fatiguée, elle voulait rentrer. Ils sortirent tous ensemble de la boîte de nuit, sans se presser. Tandis que les lumières du Coach Light s'éteignaient, plusieurs personnes virent Debbie discuter sur le parking avec Glenn Gore. Tommy Glover connaissait bien Debbie, avec qui il travaillait dans une verrerie. Il connaissait également Gore. Au moment où il montait dans son pick-up, il vit Debbie ouvrir la portière de sa voiture et Gore s'approcher. Ils échangèrent quelques mots et elle le repoussa. Mike et Terry Carpenter travaillaient tous deux au Coach Light. Lui était videur, elle serveuse. Se dirigeant vers